Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly. Nouvelle semaine de comics pour cet épisode numéro 34 et je suis toujours avec Mister.
On est banni.
On attaque tout de suite par le numéro de la semaine puisqu'on a un programme assez chargé, des reviews, des news, etc. Et pas mal de news apparemment, m'as-tu dit?
Oui, quand même pas mal de choses, ouais.
Donc on va pas perdre trop de temps, le numéro de la semaine, ben je te laisse commencer.
Alors, le numéro de la semaine, donc en cette semaine 34 de Comics Weekly, c'est le Hulk, Incredible Hulk, volume 2, numéro 34. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'était le début du run de Bruce Jones sur Hulk, avec au dessin John Romita Jr., rien que ça.
C'est un petit débutant, ça, non? Je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup vu. Hein.
Oui, petit, bah...
Petite carrière, je pense.
Petit joueur aussi.
Ouais.
Petit dessin pas terrible, hein, quand même, faut le dire. Voilà.
Non, comment se faire des amis en une leçon?
Voilà, exactement. Donc, le run de Bruce Jones, bah, c'est tout simplement ce qui m'a donné envie de lire du Hulk. Au fait, avant, je m'en foutais complètement de ce personnage-là, il m'intéressait pas. Et c'était génial. C'était Hulk fugitif qui traversait les États-Unis. Il était poursuivi par une mystérieuse organisation qui voulait lui voler son sang. Normal. Pour, ça peut toujours servir d'avoir du sang de Hulk.
Ça peut.
Et c'était vraiment des intrigues à tiroir, c'était vraiment du thriller avec une ambiance à la polar sur certains épisodes, et c'était énorme. Franchement, très très bon run, et pour moi peut-être le meilleur run de Hulk de tous les temps, quoi. Enfin voilà, Bruce Jones sur Hulk,
comme
c'était
tu
énorme.
Y vas.
Ah comme ouais, non mais c'était gigantesque. Alors malheureusement, ça a été publié à la Barbare en français, c'est très dur de les retrouver.
À la Scar, pour rester dans le bon ton.
À la Deadpool en français, quoi, par exemple. Ça a été publié dans des big books, ça a été publié dans des 100%, ça a été publié dans des fascicules mensuels. C'est un peu le bordel, quoi. Donc, pour s'y retrouver. Mais en tout cas, très bon run qui débute avec ce numéro 34 et qui dure, je sais pas, une bonne trentaine, voire quarantaine d'épisodes, je crois, au moins.
Ah, je croyais que c'était plus long que ça. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, quand même, mine de rien, ça représente 3 ans.
Mais je veux pas dire de bêtises.
Ça représente 3 ans, mine de rien. Donc, mais moi, j'avais l'impression qu'il était resté vraiment très, très, très longtemps sur Hulk.
Oui, il est resté quasiment jusqu'à ce que Hulk soit envoyé dans l'espace, au fait.
Il avait pas déjà fait un premier passage à la fin du volume 1, Bruce Jones?
Je ne crois pas. Enfin, pas à ma connaissance.
On a pris la suite de Peter David?
Non, je crois pas. Il y a eu du John Byrne, il y a eu du Paul Jenkins. Entre-temps.
Ah, c'est peut-être ça, avec peut-être ça.
Et Bruce Jones arrive et fait un truc génialissime, à mon sens. Et ensuite, Peter David fait juste un arc pour envoyer Hulk dans l'espace. Et après, c'est Planète Hulk avec Greg Pak.
Voilà. Greg Pak, ouais.
Voilà, on a refait l'historique en quelques secondes. Ouais. C'est formidable.
Quelques secondes, c'était très rapide, mais en même temps. Hein,
voilà. C'était efficace. Bon, eh bien, à ton tour.
J'ai eu très peur puisqu'on s'était pas concerté cette fois-ci. C'est rare qu'on se donne pas le numéro de la semaine à l'avance, histoire de pas faire deux fois le même. J'ai eu peur qu'on ait choisi le même, mais non. Avengers volume 1, numéro 34. C'est par Stan Lee, Don Heck, au dessin. Ça date de novembre 1966 et c'est la première apparition du Living Laser.
Ah oui, le fameux Living Laser qui...
Que l'on voit tout le temps dans les pages des Avengers actuellement.
Hein. Et d'Iron Man aussi. Enfin, qu'on a vu à un certain moment dans Iron Man. C'était un ennemi récurrent aussi.
Et donc Bendis l'a bien exploité ces derniers temps, hein, quand même. Puisqu'il faisait partie de la bande de Hood.
Ouais, mais il pue un peu, hein.
Ouais, non, mais enfin bon.
Parce qu'à l'époque, il fut un temps où c'était vraiment une grosse menace. Iron Man se faisait latter par lui, et maintenant, c'est vraiment devenu un mec tout pourri, quoi. Enfin bon.
Lors de sa première apparition, en fait, il avait un petit crush amoureux sur la guêpe. Il essaye de l'enlever et il se retrouve à affronter les Quatre Fantastiques. Voilà. Les Quatre Fantastiques, les Avengers.
Oui, n'importe quoi. C'est original, pourquoi? C'est cool. Ça aurait été drôle qu'il se coltine avec d'autres héros alors qu'il a enlevé un membre d'une autre équipe.
Bah, ce serait quelque chose qui serait tout à fait faisable aujourd'hui, qui ne se faisait pas à l'époque. Mais c'est vrai que c'est pas mal comme idée.
Ouais. Voilà.
On retient si un jour on bosse chez Marvel ou chez DC.
C'est le début d'une histoire là, tu tiens quelque chose.
Ouais. Début d'un super arc qui va s'étaler sur une période de 5 ans avec un gros event à la fin et on dira « je l'avais prévu
oui. »
depuis le départ.
Au fait, à la fin, il se marie. Mais il y a Mephisto qui dit non.
Oh, ouais, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ça. Ok, les news maintenant, les news.
Alors les news, on attaque quand même par les grosses news de cette semaine, c'est quand même avec DC. Flashpoint pointe le bout de son nez. J'ai failli dire une bêtise. Donc, il y a eu un certain nombre de teasers.
T'aurais pu faire une Superman quand même. Flashpoint le bout de son nez. Quoi.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai failli la faire. Et puis, en fait, j'ai été trop rapide sur ma blague comme Flash.
C'est de bon ton.
Oui, voilà. Je me suis empêché de faire ma propre vanne. Enfin bon, c'est bon.
Tu es revenu dans le temps toi aussi, tu t'es empêché de faire ta vanne.
Voilà.
Voilà. Comme le River Splash le mois dernier.
Ah, ben ça aurait pu changer le cours de notre vie, hein, puisqu'il suffit de battement d'aile d'un papillon, enfin bref.
Va-t-on savoir, le saura-t-on si on a changé le propre cours de notre vie?
Peut-être. Peut-être qu'on vient de sauver le monde. Peut-être ouais. qu'en réprouvant ma blague, j'ai sauvé le monde. Bref.
Nous sommes très philosophiques ce soir, ça promet.
Ouais, on va peut-être commencer à attaquer quand même les news. Alors donc, un certain nombre de petits trailers avec un certain nombre de symboles et de slogans, d'une part. Comme bah, par exemple qu'il a passé toute sa vie à s'occuper des casinos Wayne. Donc on pense évidemment à Bruce Wayne. Qui,
bah, le logo fait que on y pense.
Oui, forcément. Et puis même, il y a le mot Wayne dedans, et on se doute bien que si quelqu'un doit gérer des casinos, Wayne, bah c'est Bruce, quoi. Donc visiblement, il aurait subi un autre sort, en fait, un autre destin. Alors il y avait aussi, oui, celui où c'est marqué la navette ne s'est jamais écrasée. Donc on pense forcément à Superman.
Quoique ça pourrait être en fait Green Lantern, puisque si la navette ne s'écrase pas, Hal ne récupère pas la bague.
Exactement, aussi. Oui, oui. Effectivement. Mais il y avait aussi un autre truc, c'était où est sa bague? Alors, on pensait à Green Lantern et en fait, il s'agit de Flash, puisque les deux ont une bague, c'est vrai. Donc voilà, pas mal de choses. Il y en a un autre aussi. Ah bah oui, sur au fait une guerre qui a été...
Le mariage a été arrangé pour prévenir la guerre.
Voilà. Donc là, on pense à Aquaman et Wonder Woman, selon les deux symboles qu'on a. Et bah, a aussi été révélé, on va dire, les deux pages, en fait, deux planches de Flash Rebirth.
De Flashpoint.
Flash Rebirth, ce serait un petit peu du déjà vu.
Mais ouais. Ça pourrait être très drôle, puisque c'est une page qu'on n'aurait pas forcément pensé, qui pourrait servir pour Flashpoint, peut-être.
Oui, oui, voilà, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Alors, une page assez bizarre, puisque, comme on le disait avant l'enregistrement, on a Barry Allen qui sort un costume de River Splash.
Ouais.
On a un espèce de compte à rebours, surtout. Ça, c'est assez assez logique, puisque nous avons actuellement le countdown to Flashpoint. À chaque fois, je veux dire Flash Reverse. Bah,
c'est comme voilà. Ça, en fait, tu as la même maladie que moi avec Big Game et Big Time.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi, c'est Flash Rebirth qui revient tout le temps. Donc, on a aussi, on voit une espèce de Batman se battre, enfin, on voit Batman se battre contre ce qui semblerait être...
Un Flash.
Un Flash. Enfin, un Flash pense, ancienne version. Puisque...
On pense à Barry Allen, vu le costume. Puis on a surtout, c'est aussi cette page où on a... alors, d'après les costumes, on dirait donc Kid Flash Bart, Wally West en Flash, et Jay Garrick, qui ont l'air d'être effacés par la Speed Force.
Qui ont l'air d'être effacés, et peut-être oui. Que... Si Barry Allen est Reverse Flash, peut-être que le Flash qu'on voit affronter Batman n'est nul autre que Reverse Flash.
Ouais.
Voilà.
Ça paraît donc, complexe, mais c'est très simple.
Ça paraît complexe, mais c'est très simple. Et le pire de tout, c'est qu'on a cette grande page, cette splash page, avec bah, pas mal de choses. Flash, évidemment, qui est présent. Mais on voit un espèce de Batman assez sombre. En fait, il a les yeux rouges. Il a trop regardé la télé. On voit...
Batman a une conjonctivite.
Voilà, on a un espèce d'énorme caisson avec des militaires surarmés devant, un caisson avec la, en fait, le symbole de Superman dessus, donc on peut imaginer que Superman, dans ce monde-là, ou le monde tel qu'il va être, puisque peut-être que Flash va changer le monde.
Vu ce qu'on a lu, je pense que le Reverse Flash va empêcher la création du Flash, et par là même modifier les cours des événements.
Oui, d'ailleurs, si tu regardes bien, je viens de m'en rendre compte, en fait, sur le teaser, tu as un flash, au fait, et en fait, l'espèce de d'onde qu'il y a derrière lui, là, a la forme de, je trouve, d'ailes de papillon, quoi, limite.
Ah, peut-être. J'en ai pas fait
enfin, on a l'impression que c'est des ailes, quoi, tu vois. C'est donc, c'est peut-être justement un clin d'œil à ce fameux,
enfin, effet ce papillon.
Oui, ce fameux effet papillon. Et donc voilà, donc pas mal de modifications qui pourraient avoir lieu, surtout l'univers DC. Peut-être que Flash va bouleverser entièrement l'univers. Bon, pour un certain nombre de temps, on se doute bien que tout ne sera pas changé à tout jamais.
Et quelles seront les conséquences à long terme? On verra bien.
Mais en même temps...
C'est intrigant. Hein.
Oui, voilà. J'ai hâte, quoi. C'est même super loin maintenant, puisqu'il va falloir attendre mai, je crois. Hein.
Oui, mais de toute façon, on en reparle très prochainement, puisqu'apparemment, DC a décidé de nous publier un petit teaser chaque vendredi jusqu'à Flashpoint. Qui va nous en faire découvrir un petit peu plus à chaque fois. Donc,
en fait, ils vont nous publier tout Flashpoint jusqu'à Flashpoint.
Sous format webcomics.
Mais gratos, en plus.
C'est bien. Con chez DC.
Oui, mais c'est une bonne initiative, en même temps, on va pas se plaindre. Alors, on va continuer vite fait, avec des news DC, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Flashpoint.
Non, c'est très bien, c'est intriguant, et j'ai hâte. Et j'ai un peu peur en même temps. Mais
j'ai plus hâte pour ça que pour War of the Green Lantern, hein, personnellement. Je sais pas toi, mais...
Pas la même chose. Moi, j'attends de voir les conséquences de War of the Green Lanterns.
D'accord. Bon,
Moi,
bien.
c'est plus ça qui m'intéresse.
Ok. Grosse news, non, pas grosse news comparée à ça, mais quand même news importante. Phil Jimenez devient exclusif chez DC.
Ah, il en a eu marre de bosser avec Warren Ellis?
Bah écoute, peut-être que son dernier arc sur les
Non, mais
Astonishing
je
X-Men.
crois qu'il avait bossé entre-temps
Oui, sur autre chose quand même, parce
sur
que
autre
ça fait un
chose,
petit
oui.
moment. Enfin, quoique, il a mis longtemps à sortir la dernière partie. Et qu'est-ce qu'il va faire chez DC? Il va dessiner Adventure Comics.
Ah, quand même.
Oui, quand même.
Peut-être un moyen de relancer un peu le titre.
Mais oui, mais ça pourrait être vraiment sympa sous les crayons de Phil Jimenez, en espérant qu'il tienne bien
Les délais.
les délais. C'est surtout ça, en fait. Sinon, un autre dessinateur, c'est Jesus Sayles. Alors, Jesus Sayles, que je ne connais pas trop, mais qui arrive sur Birds of Prey dès le numéro 12.
D'accord.
Nouveau dessinateur.
Pas mal. Là,
Je crois que
actuellement,
c'est...
on a Guillaume Marsh, qui c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Mais
Ouais.
Réseau C, c'est bien aussi, quoi.
Voilà. On va passer chez Marvel. Donc, chez Marvel, on va avoir en avril une mini-série en 5 sur Scar, le fils de Hulk, qui s'appellera étrangement, alors je ne suis pas du tout Scar en ce moment, je ne sais pas ce qu'il devient ce personnage-là, mais ça s'appellera Scar, King of the Savage Land, donc par Rob Williams et Brian Ching. Donc, bah, bon,
J'ai vu passer l'info, ouais.
oui.
Faut voir ce que ça donne.
Faut voir ce que ça donne, mais en même temps, pourquoi pas, vu qu'il a une tête de Conan le barbare.
Scar face à Kaisar, pourquoi pas?
Peut-être, peut-être. Autre petite news, en avril, on aura le droit à un Deadpool, un one-shot Deadpool. C'est toujours la fête quand on a des Deadpool. Donc, Deadpool Family. Voilà. Trois histoires. Alors, une de James Asmus, une de Cullen Bunn et une de Mark HK. Avec Darnell Johnson, Dominic Stanton et Irène Strychalski. Oula,
Ouais, bah, à part
au
Asmus, je
dessin.
connais personne, hein.
Ouais. Moi non plus. Mais tout ça pour dire qu'on va encore manger du Deadpool avec ce one shot en avril. Je ne sais pas pourquoi il s'acharne, mais bon.
Faut bien remplacer cette série qui s'arrête.
Oui, mais bon, si c'est pour faire des one shot. Et justement, petite transition, il va y avoir.
Je me permets juste de rebondir, mais c'est que Deadpool Family, apparemment, enfin, pour moi, c'est que si ils font un one-shot Deadpool Family, c'est que ça va être Deadpool Core qui doit s'arrêter. Ça me paraît logique.
Ouais. Enfin, en même temps, y a-t-il une logique dans Deadpool quand on a une série avec un compte à rebours? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref.
Bah, il y a quand même une certaine logique de vente, donc
Oui. Oui.
voilà. Bref, c'était tout. Fin de la parenthèse.
Oui, non mais très très bien. Et du coup, bah, j'allais dire transition. Voilà, je trouvais même plus le mot. Flash Rebirth. Non, non. Il y aura cette année encore des crossovers entre des numéros annual, en fait. Et
Ah.
donc John Lehman et Lee Garbett réalisent donc au scénario et au dessin un crossover entre annuals qui s'appellera Identity Wars, donc la guerre des identités, avec les annuals de Spider-Man, Hulk et Deadpool. Voilà. On ne le perd jamais de vue,
Ah,
celui-là.
c'était bien jusqu'au dernier, quoi. Le dernier, c'est le faux pas de trop.
Oui, alors je ne sais pas du tout d'ailleurs ce que ça peut donner un crossover entre ces trois persos qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Identity Wars, pourquoi? Bah,
Bah,
on va
Spider-Man Deadpool, côté blague, à la rigueur. Spider-Man Hulk, chacun cache son identité, peut-être, je sais pas. Mais alors, mélanger Deadpool et Hulk et Spider-Man en même temps, ça risque pas faire du joli, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui rigole? Il y en a un qui est fou? Il y en a un qui rigole pas et qui tape.
Ouais, effectivement. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est vraiment là trop de Deadpool à mon avis, mais bon. On continue avec l'annonce du premier tie-in à Fear Itself, puisque on s'en doute, Fear Itself, gros événement Marvel de 2011, aura toute une gamme de tie-in à côté. Et le premier annoncé s'appelle Fear Itself, The Home Front, par Christos Gage et Mike Mayhew au dessin. Ça portera sur Speedball. En fait, justement, on te demandait ce que devenait Speedball en ce moment. Eh bien, il sera...
Bah, il est dans Avengers Academy.
Oui, c'est vrai, mais il n'a pas de titre vraiment centré spécialement sur lui. On le voit dans Avengers Academy, c'est vrai. Partie des
Bah,
fameux profs.
de même que les Elite Warriors n'ont plus de titre, ce genre de choses,
C'est
quoi.
vrai. Ça permet d'avoir au moins vraiment un focus plus important peut-être sur le personnage. Peut-être qu'il va encore.
Ce qui me fait peur, c'est que je sens qu'on va encore nous reparler de Stamford, quoi.
Ah bah oui, bah surtout dans Fear Itself, ça doit être sa grosse peur. Et aussi, il y aura un backup par Peter Milligan. Alors tiens, Peter Milligan, encore chez Marvel, alors qu'il est aussi chez DC. Donc,
bon. Bah, il n'est pas exclusif.
Non, il n'est pas exclusif, mais donc il est sur tous les fronts. Et
ce qui tombe bien, vu le nom de la série.
Oui, voilà, The Home Front, effectivement. Peter Milligan et Ilya Bonetti sur Jimmy Woo et les agents d'Atlas, donc un backup.
Ah du Atlas non écrit par Parker.
Et ouais. Et en plus, servant... enfin. Ajouter en backup à cette à ce tie-in, histoire de nous mettre les agents d'Atlas quelque part, à mon avis. Voilà. C'est tout, je crois, pour Marvel cette semaine. On va passer à l'indé avec un crossover qui m'intéresse tout particulièrement. Un crossover entre Dynamite et IDW. Un crossover entre Danger Girl. Donc, tu vas me dire Danger Girl, tu t'en fous.
Oui, un petit peu, oui. Mais J. Scott Campbell.
Moi aussi, oui, non, mais enfin, Danger Girl, j'ai jamais été tellement fan. Mais
le je sais quel livre de Ken News tu parles, j'ai vu passer.
Avec Army of Darkness, donc le fameux H de Evil Dead. Ce sera par Andy Hartnell au scénario et les dessins de Chris Bolson, avec des couvertures de J. Scott Campbell, évidemment. Paul Renaud également et Nick Bradshaw aux couvertures. Un crossover entre ces deux franchises, et franchement ça a l'air très drôle. Donc moi ça m'intéresse, voilà.
Mais je ne savais pas que Danger Girl avait changé de maison d'édition, tu vois.
Oui, puisqu'à la base ils étaient publiés par
Wildstorm.
Wildstorm.
Enfin, je crois même que c'était publié chez Cliffhanger au départ, mais qui était un sous-label Wildstorm.
Ouais.
Mais je ne savais pas que ça avait changé, tu vois.
Bah de toute façon, vu que Wildstorm maintenant.
Bah oui, c'est pour ça que ça m'étonnait, quoi.
Je crois que c'est Dynamite qui... Du coup, oui, c'est ça, c'est Dynamite, et donc IDW, c'est Army of Darkness. Si je ne me trompe pas, si j'inverse pas les deux.
Alors là, je me demande si c'est pas l'inverse, justement. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon...
Bon, de toute façon, corrigez-nous, hein, si vous le savez. Hein. Voilà. Donc, rappelle-toi aussi. La semaine dernière, je te parlais d'un trailer chez Topco. C'était marqué « We are all lost ». Eh bien, on sait ce que c'est. C'est une nouvelle série Topco qui a un pitch, on va dire, basique, mais en même temps très intéressant, qui peut être très intéressant. C'est les aventures d'un détective du NIPD, nommé Ray Parker, alors à ne pas confondre avec Ray Palmer, Ray Parker, qui, au fait, vit dans un monde où le soleil ne se lève pas.
D'accord.
Voilà. Alors, dit comme ça, ça peut sembler vraiment assez cucu la praline comme pitch, mais en même temps, ça peut être super intéressant. On a eu des séries vraiment intéressantes et passionnantes avec des pitchs comme ça, assez simples en apparence, et qui pouvaient s'avérer super complexes. Donc, bah voilà, ça s'appelle Netherworld, je sais plus si je l'ai dit.
Non.
Voilà, Netherworld, chez Topco, et ce sera écrit par Rob Levin, avec Brian Edward Hill et Tony Chastin, au dessin.
Est-ce une mini ou un ongoing?
Ce n'est pas précisé, là, pour le moment, si ce sera une mini-série ou un ongoing.
Donc il y a des chances que ce soit un ongoing, généralement on le précise quand c'est une simple mini.
Ouais. Donc voilà, en tout cas...
Peut-être un moyen pour moi de m'intéresser à Topco, ouais.
Oui, enfin peut-être une série Topco intéressante.
Bah, c'est pas que les autres ne le font pas, mais les autres ne m'intéressent pas plus que ça.
Oui voilà, c'est ça, pour nous on va dire, parlons pour nous. Ouais. Voilà, ça clôture les news de la semaine.
Eh ben c'est pas mal, hein.
Donc, oui, pas mal de choses.
Il y en a un bon paquet. Ouais. Et on passe tout de suite donc à la double review... C'est Daredevil Reborn numéro 1 sur 4. Vous pouvez pas passer à côté, hein. Running Event, Shadowland, donc sa suite, Daredevil Reborn.
Exactement, Daredevil Reborn.
Au scénario, on retrouve Andy Deagle et au dessin, Davide Gianfelice. J'espère que ça se prononce comme ça.
Gianfelice, ouais, je crois.
Donc, à la fin de Shadowland, maintenant on peut y aller, on peut spoiler comme des ouf.
Oui.
Daredevil n'est pas mort.
Non, Matt Murdock, disons Matt Murdock même, carrément, puisque... Mm. Pour qu'il n'y ait pas le doute sur qui était Daredevil à la fin de Shadowland.
Daredevil est mort, lui. En tout cas, pour le moment.
Daredevil est mort, oui.
Mais Matt Murdock ne l'est pas. Mm. Voilà, on va dire ça comme ça. Mm. Et donc, il décide de se la jouer Bruce Wayne, hein, et de partir sur les routes à la redécouverte de lui-même.
Alors moi, je dirais, alors franchement, cet épisode, déjà, de prime abord, de par son ambiance générale, et de par le fait qu'il part sur les routes, etc., justement, m'a fait penser à ce fameux run dont je te parlais tout à l'heure de Bruce Jones sur Hulk, parce que pour moi, dans l'ambiance et dans le pitch initial de base de l'histoire, c'est plus du Hulk que du Daredevil.
Mais là, en fait, il n'est pas réellement en fuite, il essaye juste d'aller se redécouvrir. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a plus fait penser à Bruce Wayne. Tu vois.
Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est une espèce de... Ouais, de road trip. Tu sais, Hulk n'était pas forcément non plus en fuite constamment, mais il y a tout un moment où il se balade aux États-Unis, et puis il a toujours des aventures comme ça, un petit peu mystérieuses. Il arrive dans des villages bizarres, avec des gens bizarres, et là c'est complètement ça, quoi.
Voilà. Bah donc comme tu viens de le dire, voilà, c'est ça, il arrive vraiment dans une petite ville totalement étrange. Où les
Le
gens.
cliché, alors,
Oui.
le fameux petit. Comment on pourrait l'appeler, petit café là au bord d'autoroute aux États-Unis.
Bah le Bagdad Café.
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire avec une ambiance
Le,
assez étouffante, une serveuse un peu bizarre qui lui
un
pose
café
des
de
questions.
routier, quoi, tout simplement.
Oui.
Un
On
routier.
sent qu'on n'aime pas trop les étrangers, quoi. Voilà, il y en a eu
Pas
beaucoup des.
trop.
Voilà. Non mais il y en a eu beaucoup des histoires comme ça et même des films comme ça où il y a le fameux téléphone aussi avec la personne qui dit ouais on a un étranger ici, il va falloir qu'on s'en occupe. Enfin voilà, c'est vraiment là. On retrouve cette ambiance qu'on a déjà vue et lue 150 000 fois auparavant, mais bon, avec Daredevil, ça change un peu les choses, quoi.
Ouais. Bah, Deagle nous explique, en prenant les mots de Daredevil, qu'il a commencé à partir en filant vers le sud, toujours vers le sud, et que, enfin même vers le sud-ouest en fait, et qu'il a laissé tomber le bus parce qu'il y avait trop de bruit, etc., et qu'en gros il préférait marcher parce que c'était calme, c'était silencieux, ça lui permettait de réfléchir. Il arrive dans ce café parce qu'il a soif, il marche dans le désert, hein, enfin une sorte de désert en tout cas, et il y a ce petit gamin aveugle, alors ça aussi c'est un peu cliché, mais...
Oui, il y a toujours, oui, bien sûr.
Non mais ce petit gamin aveugle qui
Mais...
partage les mêmes conditions que lui et qui
Oui.
essaye de rattraper cette pièce et qui n'y arrive pas et Daredevil, enfin Matt qui passe à côté de lui sans même le regarder, sans jeu de mots.
Sans même le mater, oui, voilà.
Voilà, il commande son
Matt
truc, il
Sam
sort.
Murdock.
Oh non,
Oh là là.
oh non.
On a déjà dû lui faire, mais bizarrement, pas assez suffisamment, à mon goût, dans la bande dessinée.
Du coup. Quand il ressort de ce café après s'être fait presque éjecter, hein, quand même, vu la froideur de cette serveuse, il aide ce petit gamin à rattraper cette pièce. Et il est accosté par une bande, on va dire,
Oh,
de petits. Oui,
de Steve, je t'ai reconnu. Hein.
tout
C'était
à
toi
fait,
avec le
c'est
chapeau là,
tout à fait,
chapeau de
exactement.
cow-boy. Non mais c'est
Donc,
vrai.
ouais, de petits caïds de la ville qui, bah, qui gèrent tout, quoi. Qui veulent être les boss de la ville, tout
Comme
simplement.
Anior, voilà.
Et du coup, il se laisse complètement tabasser. Il pourrait les tuer, il le dit plusieurs fois, il pourrait les tuer, il pourrait les frapper, mais il préfère se laisser tabasser.
Il fait son Superman. Il fait genre je vais marcher et puis je vais pas utiliser mes
Oui,
pouvoirs.
c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Vraiment. J'avais pas fait ça,
Bah
j'avais pas
oui,
vu ça.
il y a aussi c'est plein
J'ai
de
tellement
choses
tendance à
quoi.
l'oublier, j'ai tellement tendance à oublier ce run de Superman.
Oh et pourtant, qui te dit que je n'ai pas fait Superman? Tu verras tout à l'heure.
Après ça, arrive un flic, le petit shérif de la ville, qui est lui tout aussi bizarre, et qui demande à Matt de vite partir. Grosso modo, on va résumer ça comme ça. Bon, on va pas aller trop loin dans le pitch, on va pas trop spoiler la fin. Matt sent quelque chose d'étrange en quittant la ville et décide d'y revenir, et là, les choses dérapent.
Et là, c'est le drame.
Et
Et
on se rend
ouais.
compte que il y a vraiment des choses très 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 étranges dans cette ville.
Il y a vraiment des choses super étranges et en plus, oui, une ambiance bien oppressante. Mais voilà, pour un truc qui s'appelle Daredevil Reborn, c'est assez étrange quand même. On a l'impression que c'est plus une histoire, tu vois, à côté, quoi.
Ouais, complètement. Moi aussi, je me suis demandé où ça
Enfin,
allait.
je me suis dit, mais pourquoi nous raconter ça, au fait? Quelle
Ben,
est
moi,
l'utilité?
ce qui m'a dérangé, en fait, un petit peu dans cet épisode, c'est que, enfin, j'ai eu cette impression-là. En tout cas, c'est peut-être pas réellement le cas, mais je l'ai lu assez vite. Pourtant, il y a du texte, mais je l'ai lu assez vite. J'étais vraiment dedans, mais ça m'a paru vite terminé, quoi. Et je me suis dit, putain, il y a déjà eu 22 pages. Ça m'étonnait, quoi. Et j'étais tellement rentré dedans que ça m'a paru vraiment trop court. Sur le fait aussi qu'on n'en sache pas assez sur ce plot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On est totalement dans le flou. Et c'est vrai que ben, je me suis dit, mince, déjà, quoi. Donc ça m'a un petit peu fait chier, quand
Ouais.
même. Je me suis aussi, comme toi, demandé un petit peu quel était l'intérêt, en tout cas pour le moment,
Bah, en tout
de
cas,
voir
moi
ça.
j'ai beaucoup aimé, hein.
Ah mais oui, non mais
J'aime
c'est
bien
très.
ce type d'histoire. Mais je veux dire, quel est le rapport avec le schmilblick ou avec la choucroute, si tu préfères?
Exactement, ouais, je préfère le schmilblick, mais après, chacun ses goûts, hein. Du coup, ouais, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, Daredevil Reborn, ouais, ok, je m'attendais à autre chose, quoi. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'a gêné. Je pense que tu vas t'en rappeler, quand Andy Deagle nous l'avait interviewé au LCF, lors du panel, il disait que justement, il trouvait que Daredevil, ces derniers temps, était, selon ses propres mots, un whiny bitch.
Voilà, oui.
Une petite pleureuse, quoi.
Oui, une petite pleureuse, pour supprimer un mot. Une plage pleureuse, en français.
Il n'y a pas vraiment de traduction littérale.
Non, mais on va le dire comme ça pour les jeunes auditeurs. Ouais. Ce qui ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave.
Et donc, franchement, j'ai quand même l'impression que Deagle continue dans cette voie-là. Oui. Daredevil s'apitoie sur lui-même encore et toujours. Et ça me gêne un peu, quoi. Notamment cette façon de se laisser frapper dans tous les sens. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est de l'auto-apitoiement, quoi. Et il continue sur cette voie-là alors que justement, il voulait le sortir de ça.
Oui, c'est vrai que c'est assez étrange. Et puis là, pour le coup, ça ressemble pas vraiment à du Deagle qu'on a d'habitude. Là, c'est vraiment une ambiance. C'est lent quand même.
J'ai retrouvé l'atmosphère un peu de Loser, tu sais, le désert, tout ça.
Ah ouais, mais dans The Loser, il y avait quand même vachement d'action, ce qu'on a eu dans Shadowland d'ailleurs, c'était quand même 100%
action. Juste l'atmosphère du désert et de la petite ville, quoi, c'est tout.
Oui, Ouais. Non mais, voilà, je l'ai trouvé changé, quoi, différent un petit peu dans sa manière d'écrire. Moi, ça m'a pas déplu, je lirai forcément la suite, parce que
Je suis intrigué,
Pour un
petit martyr, quoi, c'est ça qui me gêne, c'est Daredevil, toujours le martyr.
Pour un truc qui s'appelle Daredevil Reborn, j'ai l'impression que ça va se terminer par j'ai compris que finalement le monde avait besoin d'un Daredevil pour sauver peut-être le gamin aveugle là, peut-être qu'il va y passer aussi, et peut-être que Matt. Ou peut-être. Attends. Peut-être qu'à la manière d'un Batman, il va le faire du petit aveugle son Robin.
Ah ouais, ça serait
d'où le titre, Daredevil Reborn. Mais alors là, ce serait assez énorme quand même qu'il y ait un Daredevil Kid dans l'univers Marvel ou une sorte de chose comme ça, quoi.
Et moi, vu qu'il se dirige vers le sud-ouest, je me demande s'il va pas de nouveau se réétablir dans une ville type Los Angeles ou San Francisco. Plus Los Angeles, où c'est quand même plus au sud. Et donc un Daredevil de nouveau sur la côte ouest, comme ça avait déjà été fait à l'époque d'Anocenti, par exemple.
Ou bien alors moi, je me demande aussi... Oui, alors d'ailleurs, c'est vrai que la comparaison avec le run d'Anocenti est ressortie aussi pas mal par rapport à cet épisode, mais...
J'ai pas été lire les reviews du tout.
Il y en a quelques-uns, oui, qui faisaient référence à ça, parce qu'effectivement, il était sur la route à l'époque, mais il était toujours Daredevil, par contre, autant que je me souvienne. Et oui, non, par contre, il y a aussi le fait que peut-être on va nous ressortir un ancien ennemi de Daredevil qui s'est retiré comme par hasard dans ce petit batelin.
Non, je pense pas. Je pense que c'est plus une histoire avec des locaux. Hein.
Des locaux, tu l'écris dans quelle langue?
Ah, je laisse planer le doute.
Et voilà.
Je l'avais pas vu comme ça, mais vu que tu me tends la perche.
De stacker locaux, alors, on va dire.
En tout cas, c'est quand même intriguant, c'est intéressant, c'est différent de ce à quoi on pouvait s'attendre, mais ce sera quand même un bail, je pense.
Oui, voilà, c'est quand même une lecture vraiment sympathique cette semaine, donc ne le ratez pas, quoi. Et puis
les dessins de Gianfelice sont... au début, j'étais pas super accroché, peut-être un peu trop cartoony à mon goût, mais les scènes d'action vers la fin, et notamment cette scène de saut, je pense que tu vois laquelle si je veux te parler, au-dessus de la voiture.
Oui. Très très bien.
Elle est magnifique. Et cette dernière page est superbe. Voilà. Donc faut s'habituer au style. C'est pas moche, hein, loin de là. Hein. C'est juste que je m'attendais pas à ça non plus. C'est vrai qu'avec une cover de Jock, etc. Il a un style assez proche de Jock, mais un peu plus cartoony quand même.
Ouais. Et puis on se met bien à la place aussi de Matt Murdock. On a vraiment envie de les dessouder tous ces locaux.
Ouais.
Donc, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on a aussi envie de lire la suite.
Surtout en voyant ces dernières pages.
Oui. Donc on va voir où ça mène tout ça.
Donc pour toi aussi un bail?
Oui, un bail, oui, quand même.
Ok, ouais. Parfait. Eh bien, on passe au review solo, et c'est toi qui commences.
Ah, c'est moi qui commence. Eh bien alors, sans trop de surprise, hein, Steve, je t'avais dit que je le ferais, Heroes for Hire numéro 2. Au scénario, on retrouve Dan Abnett et Andy Lanning, donc le fameux couple, le couple, pas la vie, hein, en tant que scénariste.
Sait-on jamais?
Je ne sais pas, on les a jamais rencontrés lors de salons, donc je ne sais même pas d'ailleurs à quoi ils ressemblent, nos amis Dan Abnett et Andy Lanning. Au dessin, Brad Walker, si je ne me trompe
c'est
pas,
ça.
C'est ça, hein, c'est bien ça,
c'est ça
avec des dessins superbes, enfin moi j'adore, T'étais plus un petit peu plus froid que moi.
Bah non, j'aime bien, mais je suis pas renversé non plus par son style. Bah, c'est pas quelque chose.
Moi, ça me renverse.
c'est solide, quoi. Brad Walker. Enfin voilà.
Alors, je sais pas si c'est dû à l'ancrage, mais je trouve que ça pète, mais dans le bon sens du terme.
Il y a la colorisation aussi qui joue. Hein,
et la colorisation, oui. Donc là, bah en fait. Tout simplement, on reprend un petit peu là où on avait laissé les choses dans le dernier épisode, c'est-à-dire que on voit d'autres membres des Heroes for Hire se faire appeler par Misty Knight pour aller sur diverses missions, pour intervenir sur diverses affaires. Donc là, on voit quoi ? On voit qui ? On voit Silver Sable, qu'on n'avait pas vu, et on voit Paladin. Et au fait, on se rend compte très vite d'ailleurs que Paladin est de mèche avec Silver Sable, puisque rappelle-toi, Paladin avait bossé pour Silver Sable, notamment on l'avait vu dans des épisodes de Spider-Man dessinés par Todd McFarlane à l'époque.
Mais il avait aussi bossé pour Heroes for Hire dans volume 2.
Aussi.
Il en faisait partie, oui.
Oui. Mais du coup, voilà, on savait pas trop de quel côté il était. Eh bien, il est du côté des Heroes for Hire, il en fait partie. Et donc là, il est de connivence avec Silver Sable. En fait, ils sont en communication, ils sont sur une autre affaire. Enfin, Silver Sable est sur une autre affaire. Une affaire qui a un lien avec celle où il est. Alors, c'est de plus en plus étrange. Au fait, dans le premier numéro, c'était des affaires assez basiques avec...
C'était une seule et même affaire, en fait.
Oui.
Parce qu'elles avaient tout un lien.
Oui, elles avaient tout un lien, mais là, ça... Les choses prennent une tournure encore plus bizarre, c'est-à-dire que Paladin, pour résoudre son affaire, a besoin de faire appel quand même à Zatanna, je crois qu'elle s'appelle. Non, attends.
Non, c'est... Ah oui.
Zatanna.
Là, je commence à me dire, ah oui, effectivement, c'est étrange, un crossover d'un coup.
Oui, non, attends. Zatanna, tu sais, c'est cette nana qui ressemble à Jean Grey version...
Version sorcière.
Ouais, version sorcière, mais est-ce qu'on dit Zatanna ou Zatanna, finalement ?
Non, avec un S.
Oui.
Comme Satan, c'est la fille de Satan, ouais. Satana.
Oui, c'est vrai qu'en anglais, oui, c'est aussi Satana. Bon, Satana, donc, qui ressemble donc à Madeleine Prior, quoi, en fait, à Jean Grey, version Madeleine Prior. Version démoniaque, quoi.
Ouais, Goblin Queen.
Goblin Queen, voilà, exactement. Et donc, il a besoin de faire quand même appel à cette personne pour résoudre cette affaire, donc ça part du côté vraiment mystique, et bien sûr, on a l'apparition du tant attendu Ghost Rider, alors là, ça claque aussi.
Ah, je me doutais que tu l'attendais comme
ça. Ah oui, surtout dessiné par Brad Walker, c'est assez énorme.
Je n'irai pas jusqu'à dire des termes grossiers, mais je pense que tu as eu une érection.
Non.
Ah, je te mets dans la merde là.
Non, mais moi je n'ai pas de. Il ne m'arrive pas de ces choses-là envers une bande dessinée.
Une érection mentale.
Oui.
Pourquoi voilà. Tout de suite physique?
Oui. Oui, enfin si tu veux. Donc, toujours est-il que. Leur affaire prenne une tournure démoniaque, on va dire, c'est lié à des démons et...
Entre Ghost Rider et Satana, putain, oui. Si c'était resté normal, voilà. J'aurais eu un petit peu peur, quoi, du scénar.
Ouais, avec le retour aussi d'un ennemi, alors vraiment un vieux de la vieille, en fait, je me souvenais même pas qu'il existait, et ça m'a rappelé les fiches dans Special Origin, puisque je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'était sur une fiche. En fait, à l'époque, dans Strange Special Origin, c'est pour te dire.
Donc les vraiment, fiches qui étaient des traductions de l'encyclopédie Marvel.
Exactement, qui était ressorti d'ailleurs en souscription, en fait, chez Semic, ouais. en plusieurs volumes cette encyclopédie. Bon, la petite histoire. Et donc, au fait, tu te rappelles hein, du cliffhanger de la fin oui. Du premier numéro.
Mais oui, mais on apprend-on plus là-dessus parce que c'est ça le plus intéressant.
Eh bah, ben, pas vraiment. On n'en apprend pas plus là-dessus. Par contre, à la fin de l'épisode. Ça prend une tournure et on se dit, ah tiens, enfin voilà, l'un des Heroes for Hire se rend compte que quelque chose cloche. Ah. Alors je te dis pas qui, je te dis pas comment, mais à la fin on se dit, d'accord, là il va se passer quelque chose quoi. Là on rentre dans les choses sérieuses. Et voilà, donc on va pas révéler encore une fois qu'est-ce qu'était ce fameux crossover, il est tellement énorme que ce serait trop dommage au fait de le spoiler.
Si vous l'avez raté, allez le lire, vous le trouverez sûrement encore dans les bacs et... C'est énorme.
Non, c'est très très bon. Vraiment une très très bonne série. Ça va à 100 à l'heure. On s'ennuie pas une seconde. Et voilà, c'est du grand Dan Abnett et du grand D-Lanning et du grand Brad Walker. Et évidemment, c'est un must buy. J'attends la suite avec impatience. Et je te laisse la parole pour ta première review solo.
Et ben moi déjà, je peux dire qu'après le Comics Weekly, je vais sûrement aller lire le Heroes for Hire parce que je l'ai là.
Surtout que ça se lit d'une traite. Hein. C'est pas un truc prise de tête.
Allez, première review, on change de maison d'édition. Birds of Prey numéro 8, enfin volume 2, numéro 8. Gail Simon au scénario et Guillaume March au dessin et à l'ancrage. C'est la deuxième partie de cet arc Death of Oracle, donc la mort d'Oracle, hein. Et on nous promet des répercussions monstrueuses pour l'univers DC. Alors, on avait appris un petit peu dans la première partie que la mort d'Oracle, ce ne serait pas forcément la mort physique, mais simplement la mort de l'identité Oracle.
Ah oui, on remarque, là on l'a déjà eu, je crois qu'elle était, elle avait quitté son poste d'Oracle pendant un petit moment. Déjà.
Ouais, mais là elle veut faire disparaître Oracle parce que trop de personnes savent qu'elle est Oracle, et ça devient trop dangereux. Mm-hmm. Et donc elle veut faire disparaître Oracle. Alors, est-ce qu'elle fera un semblant de mort ou pas, on ne sait pas. Peut-être même que ça se retournera contre elle et qu'elle va mourir réellement à la fin. Ça c'est encore possible aussi. En tout cas, voilà le pitch de départ. Alors, à la fin du dernier numéro, on avait une partie des Birds of Prey avec Dove, Black Canary, Huntress et puis la fille qui... Lady Black Hawk, je crois. Ça va être ça. Qui est dans une boîte de striptease, puisque c'est l'anniversaire de l'une d'entre elles, je crois que c'est de Dove. Et du coup, voilà, ils lui ont montré des hommes qui se mettent à poil et la font se torcher un peu la gueule, et voilà. Oh, bien sûr, Dove étant bien pur,
tout reste bien.
Ah mais bien sûr, non, mais c'est juste avec Gail Simone, c'est toujours
très correct. Oui, notre ami Simone.
C'est toujours très sous-jacent, quoi. On dit plus que ce qu'on en montre. Et voilà, et si on lit entre les lignes, on comprend tout à fait. C'est très c'est très rentre dedans. Mais c'est ça qui est très drôle. Il y a rien de montré, quoi.
Oui, tout est suggéré. Enfin voilà, c'est de bonnes vivantes, on va dire.
Oui, exactement. Et du coup, à la fin du dernier épisode, une bande d'ennemis débarque en pétant le mur de la boîte de striptease, et les Birds of Prey se retrouvent à devoir affronter ces ennemis en pleine boîte avec plein de civils à l'intérieur, quoi. Tout en essayant de cacher leur identité, puisqu'à part Black Canary, toutes les autres identités sont secrètes. Donc la boîte se vide, etc. Et là, le combat peut commencer, donc... Pas mal de grosses bastons. On a ce personnage qu'on avait vu apparaître pour la première fois dans le dernier épisode, qui s'appelle Mortis, qui est une espèce de fille un peu goth, emo, qui avec son pouvoir, quand elle touche les gens, les fait revivre leurs plus grands regrets en continu. Constamment. Voilà son pouvoir. Tout ça, bien sûr, organisé par le Calculator, qui est le grand ennemi d'Oracle. C'est sa némésis, quoi.
Oui, c'est sa némésis. Le calculateur c'est quoi son pouvoir principal, d'ailleurs?
Il n'a pas de pouvoir, justement.
Il est capable de calculer à toute vitesse, quoi.
Ouais, voilà, il est très doué.
Les stratèges.
Il s'y connaît énormément en informatique, comme Oracle, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment sa némésis.
Ouais.
Et justement, dans Bad Girl 12, sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il avait appris l'identité d'Oracle, mais Oracle avait joué avec ses souvenirs, puisqu'il met tous ses souvenirs sur disque dur. Il sauvegarde tout, et elle avait effacé ce souvenir-là de tous les disques durs. Et elle fait un petit parallèle avec Identity Crisis, en disant que la dernière fois que quelqu'un avait fait ça, ça avait posé des grosses conséquences pour tout l'univers, et qu'il y avait eu pas mal de morts. Donc, que c'était sa responsabilité à elle, de faire en sorte que ça n'aille pas trop loin, quoi.
Ouais.
Voilà. Batman, lui, de son côté, arrive en renfort avec Oracle, et tout le monde le trouve très changé. Puisque c'est le Batman Bruce Wayne, hein, c'est pas Dick Grayson.
Oui, c'est le Batman en vacances, quoi.
Et il se plie vraiment aux ordres, entre guillemets, quoi. C'est pas lui qui dirige. C'est-à-dire, Oracle lui dit au début, non, tu n'interviens pas, tu attends. Et du coup, il respecte son avis.
D'accord.
Alors que le Batman d'avant aurait dit, ta gueule, je fais ce que je veux, quoi. Oui, enfin, il aurait disparu quand elle tournait la tête, ou quand, simplement quand elle clignait des yeux, il y aurait été. Bon, il se retrouve quand même obligé d'intervenir, puisque Hawk, qui fait aussi partie de l'équipe, lui est parti de son côté à la rencontre du pingouin, puisqu'il y a quelques comptes à régler après le premier arc, bien évidemment.
D'accord.
Mmh. Voilà. Et même lors de cette bagarre dans cette boîte de striptease, Batman suit les ordres de Black Canary. Et Black Canary aussi se fait la réflexion que Batman a changé.
Oui, puisqu'on se souvient que Black Canary, quand elle avait été, par exemple, leader de la Justice League, c'était pas ça, quoi. Voilà, elle avait un petit peu du mal à se faire respecter, et là, maintenant,
ils faisaient encore leur petit meeting secret, ouais. Avec Wonder Woman et Superman, ils se faisaient leur petit meeting secret.
Ouais. Là, maintenant, s'il arrive même à donner des ordres à Batman, c'est sûr qu'il a dû changer pas mal, quoi.
Et voilà, et donc, Il y a quand même aussi ça que je trouve super intéressant, c'est que Gail Simone joue avec ça aussi, ce retour de Batman. C'est pas que Batman Incorporated, Batman a aussi changé depuis son retour dans le temps. Est-ce qu'elle sera la seule à utiliser ce procédé-là, ou est-ce que d'autres scénaristes mettront ça en avant? On verra bien. En tout cas, pour le moment, j'ai pas trop vu ce changement sur d'autres séries. Donc espérons que d'autres suivent la cadence. Donc voilà, ça se termine avec les Birds of Prey en très 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 mauvaise posture, et surtout un des membres de l'équipe touché par Mortis et qui vit ses plus grands regrets. Et donc elle est mal.
D'accord. Et ce membre, c'est pas Oracle, comme par hasard. Si.
Ah bah non, puisqu'elle n'est pas dans le combat, Oracle,
ah oui,
dans
sa tour. Oui, bien sûr.
Voilà. C'est franchement sympathique, c'est quand même assez dur à résumer, parce que il faut avoir suivi au moins la première partie déjà. Et même les épisodes d'avant sont quand même assez nécessaires à la compréhension. On peut pas prendre ça n'importe quand, c'est pas forcément facile à rentrer dedans tout de suite. En tout cas, c'est vraiment sympa, la série continue bien, elle a toujours ce ton très sombre que Gail Simone a amorcé dès le début du deuxième volume. Et pour moi, c'est une bonne lecture. De là à dire que ce serait un bail, je suis pas certain, c'est en tout cas un check-it. Sympathique quand on a suivi la série, en tout cas.
D'accord, ok. Eh bien, alors, je suppose que c'est à moi d'y retourner.
Non, tu peux passer ton tour si tu veux, mais...
Donc j'y retourne.
La fameuse review mystère.
Oui, on reste dans le même univers, donc c'est du DC à nouveau. Et j'ai choisi de parler d'une série dont j'ai lu les trois premiers tomes, en fait, les trois premiers singles, du coup, pour l'occasion. Et devine ce que c'est, tiens.
Donc on en serait à l'épisode 4.
Non, on en serait à l'épisode 3, c'est le troisième qui est sorti. Chez DC.
Savage, c'est du Symbiosis, de 10, pardon. Eh bien, alors là, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Non, je ne sais, je vois pas. Honnêtement, je vois pas là.
Eh bien, alors, beaucoup de gens me diront quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Thunder Agents numéro 3. Eh oui, Thunder Agents. Alors, Thunder Agents, c'est assez compliqué, au fait, parce que il y a eu 36 000 volumes avant. C'est une série, au fait, pour être simple. C'est un petit peu comme The 12, c'est des anciens super-héros qui ont été publiés dans une maison d'édition qui s'appelait Tower Comics dans les années 60. Ça n'a pas fonctionné, cette série, et pourtant, c'était plutôt pas mal. Ça a pas mal influencé beaucoup, beaucoup de monde chez Marvel, chez DC, et beaucoup de personnages, au fait, des Thunder Agents ont inspiré des personnages Marvel, comme la Vision, par exemple. La Vision, c'est vraiment No Man des Thunder Agents, enfin voilà, quoi. C'est le premier Vision, si on veut. Bref, alors le pitch des Thunder Agents, c'est quoi? C'est une espèce d'équipe, donc les agents du Thunder. Le Thunder, c'est une espèce d'organisation un petit peu comme le Shield, qui ne cesse d'affronter au fait une autre organisation qui s'appelle le Spider, voilà, le Spider. Et le Spider, bon bah c'est un petit peu comme le Spectre, tu vois, dans James Bond. En fait, c'est deux organisations, quoi. Il y a une organisation, il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Ça peut faire penser aussi à G.I. Joe, quoi, si tu veux. Voilà.
D'accord.
Pour vraiment schématiser, quoi. Deux grosses organisations, d'un côté les gentils, d'un autre côté les méchants. Et donc, dans ce nouveau volume, chez DC, qui a commencé tout récemment, alors c'est le septième volume, quand même, en fait. Puisque la longue histoire des Thunder Agents est assez torturée, et du coup, on en est déjà au septième volume, ils sont passés par plusieurs maisons d'édition. Au scénario, on retrouve donc Nick Spencer. Alors, au dessin, c'est Cafou pour la partie présente, en fait, de l'intrigue. Et pour ce qui se passe dans le passé, pour les flashbacks, c'est Howard Chaykin, ton ami Howard Chaykin, que tu adores.
D'accord. Moi, ça va, il me dérange pas trop.
Ouais. Bon, enfin, c'est
assez... Nick Spencer, quand même.
Nick Spencer, ouais. Alors...
Oui, Morning Glories. Infinite Vacation.
Et Infinite Vacation, Morning Glories. En plus, on pourra faire une jolie transition. Oui, il y a Nick Spencer à le vent en poupe en ce moment, et cette série, j'en avais entendu de très bons échos. Alors, c'est pas nécessaire de lire, en fait, c'est ça qui est bien foutu aussi, les anciens volumes. En fait, on comprend tout ce qui se passe.
Encore heureux, oui. Parce qu'à l'heure là, on serait mal pour les trouver.
On serait mal pareil, oui. Oh bah, il y a des TPB qui sont sortis. Les fameux DC, comment ça s'appelle, les trucs là, comme les Masterwork chez Marvel. Ah, tu vois.
Je retrouve pas le nom là.
C'est pas grave. Toujours est-il que l'intrigue de cet épisode, c'est qu'on a deux agents qui travaillent pour les Thunder, justement, les Thunder Agents, qui sont chargés au fait de retrouver No Man. Alors le fameux No Man, c'est le personnage dont je te parlais, qui est une sorte de vision avant l'heure, c'est-à-dire c'est un espèce de personnage dont le pouvoir et de pouvoir transférer sa psyché dans des clones, dans des corps, en fait, tu sais, il a toute une série de corps différents, dispersés à différents endroits, et il peut transférer sa psyché dans tous ces espèces de robots, quoi, en fait.
D'accord, c'est une sorte d'homme multiple,
ouais.
En quelque sorte, quoi.
Une espèce d'homme multiple, voilà. Et alors, c'est assez marrant parce que l'agent recruté pour aller le chercher, le retrouve chez lui, donc dans sa maison. Elle descend à la cave, et au fait, il y a tout plein d'exemplaires de lui-même, de robots. Et il y en a un en face à elle qui commence à lui parler. Puis ensuite, c'est l'autre qui est derrière, qui enchaîne, etc. Donc elle est assez déstabilisée, quoi. Parce qu'au fait, il passe de corps en corps.
Voilà. Ça va faire un drôle d'effet.
Oui, oui, oui. Alors, les Thunder Agents, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est tous des super-héros super torturés, et donc super intéressants par la même. Ils ont tous des pouvoirs, au fait, qui les tuent à petit feu. Ils ont tous des pouvoirs avec lesquels il y a, malheureusement, une contrepartie. Par exemple, il y en a un qui est une sorte de speedster, qui plus il court, plus il vieillit, au fait. Plus il accélère son vieillissement.
D'accord, ah, c'est bien ça.
Etc, etc. Ils ont tous, au fait, des pouvoirs qui les tuent à petit feu, ou qui leur portent la poisse, c'est le cas de le dire. Donc ils ont tous une vie assez épouvantable. Dans les précédents numéros, au fait, certains des anciens Thunder Agents passaient l'arme à gauche. Il y a une espèce d'opération montée par l'agence Thunder contre l'agence Spider, qui se met en place, mais c'est un petit peu aussi comme dans les Secret Warriors, il y a des agents doubles, il y a ça part un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Là, principalement l'intrigue.
Moi, ça m'a déjà donné envie en tout cas.
Voilà.
Les personnages ont l'air assez intéressants.
Ah, oui. Les personnages sont super intéressants. Nick Spencer tient vraiment sa série. Voilà, il arrive à te les présenter. Donc là, l'histoire, ce numéro 3 est principalement centré sur No Man. Il se passe encore un retournement de situation à la fin. C'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Il suffit de lire vraiment le premier pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet univers, quels sont les personnages. Alors pour le moment, c'est assez étrange parce qu'on a l'impression que malgré tout, c'est publié chez DC, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont dans le monde DC, quoi.
Mais on a ce monde aussi First Wave, hein, qui est un petit peu à part avec Doc Savage, mm-hmm. The Spirit, etc. Alors peut-être que ça en fait partie.
Mm. Alors,
je sais pas.
Voilà. Et alors, je tiens à dire que j'ai lu pour la première fois aussi Doc Savage. Je fais une petite parenthèse. Le numéro 10. Je ne l'ai pas fait parce que Thunder Agents c'était mieux. Voilà, j'ai préféré cette lecture. Mais tout ça pour te dire qu'il y a de beaux dessins de notre ami Phil Winslet. C'est lui qui s'occupe des dessins dans Doc Savage. Et franchement... bah voilà quoi, c'est à checker pour les dessins de Phil Winslet.
D'accord.
Bah voilà, non, alors terminons-en avec j'allais dire Agents of Atlas. C'est un petit peu le même principe d'ailleurs en plus, puisque c'est d'anciens personnages repris. Thunder Agents, voilà, je vais y arriver. Flash Rebirth. c'est du très bon, pour moi c'est un bail. Lisez les trois numéros sortis jusque là. Prenez
ça
vraiment cette série.
Facilement.
Oui, ça se trouve encore facilement dans les comic shops. Cette série a de bons échos et c'est amplement mérité. C'est vraiment un scénariste à suivre, surtout avec les séries qu'il fait en ce moment. Et je crois, d'ailleurs, que tu vas nous parler d'une autre de ces séries tout de suite.
Oui, en tout cas, bonne pioche. Hein, t'as pris ça un petit peu, surtout à propos des
voilà,
que tu as eues.
Je cherchais un truc original à faire cette semaine. Je voulais faire Spawn 200, il est long. J'ai pas eu le temps
T'as rien compris?
si, mais c'est trop long. C'est trop long, donc je me suis dit j'ai pas le temps, je vais plutôt vraiment me concentrer sur autre chose. Et puis voilà, il y avait Thunder Agents, j'avais envie d'essayer.
Là, t'as bien fait.
Ouais, exactement. Très très bonne pioche.
Pour un truc trop long, t'en as quand même lu 3, mais.
Oui, mais ça se lit vite, ça m'a intéressé beaucoup plus, quoi.
Tant mieux, en tout cas, tu vois, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne, quoi. Je me laisserai peut-être tenter à l'occasion.
Exactement.
On va continuer avec Nick Spencer. Infinite Vacation numéro 1, nouvelle série régulière chez Image, donc du fameux Nick Spencer de Morning Glories et Thunder Agents, avec Christian Ward au dessin, qui a aussi participé à l'écriture un petit peu, hein, donc c'est vraiment leur projet à tous les deux. C'est un véritable petit bijou. J'avais été super surpris par Morning Glories, j'avais trouvé ça génial, mais je crois que je préfère Infinite Vacation en fait.
Mmh. En tout cas les échos sont très 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 bons.
C'est excellent. Je vais essayer de vous résumer, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous résumer ça. Grosso modo, on est dans un monde où, avec une application sur téléphone, bon, ça n'a jamais été nommé, mais on voit bien, même sur iPad, etc., donc on comprend très bien que c'est sur l'App Store, on peut acheter des voyages où on va vivre la vie de soi-même, mais dans une réalité alternative. Dans une réalité où on pourrait être le président des États-Unis,
Ah
une
oui, d'accord, donc
réalité.
c'est pas un voyage où tu choisis une destination, c'est un voyage où tu choisis une vie alternative.
Voilà. Mais c'est forcément ta vie à toi, puisque c'est comme ça que ça se passe
Et ça
au
te la
moment de...
modifie pas. C'est-à-dire c'est
Non.
juste un laps de temps.
Voilà, exactement, tu payes et tu vas vivre la vie de
Ah
toi-même
bah
sur une autre
c'est
terre.
vie ma vie, mais sans Laurence Ferrari à l'époque, et sans... Voilà, c'est ça. C'est
En quelque
en plus
sorte.
élaboré, quoi.
En quelque sorte, on a une séquence d'intro où on nous explique un petit peu ça, on nous explique qu'il y a un badge qu'il ne faut surtout jamais perdre, puisque c'est comme ça qu'on est localisé, qu'on peut être rapatrié, quand quelque chose se tourne mal, ce qui peut arriver, puis même à la fin de son séjour. Et après, il y a un truc, mais complètement fou, on voit une terre dessinée, et là, on voit un mec qui marche sur cette terre, un mec en photo. C'est-à-dire qu'on a un mélange dessin-photo. Et en fait, c'est simplement la grosse pub qui explique cette application, comment elle marche,
Ah d'accord,
etc.
ok.
Et ça dure 4-5 pages, mais c'est génial. Génial. Moi déjà, j'étais conquis à partir de là. J'ai trouvé l'idée tellement géniale. Et puis alors, on a des petits trucs, mais qui font vraiment comme une pub, quoi. C'est-à-dire que le personnage dit selon un certain prix, et on peut voir avec une petite astérisque en dessous, les prix peuvent varier en fonction des choses. Enfin, c'est vraiment une pub, quoi.
D'accord.
Et on suit toujours ce personnage qui s'appelle Marc,
Ouais.
je crois,
Quel client?
qui est client, et qui passe son temps à changer de vie constamment.
À
C'est-à-dire
tester des
que
trucs, quoi. C'est-à-dire,
tout ce
merde.
qu'il bosse, eh ben, il leur dépense quasiment en voyage dans des réalités
Il fait
alternatives.
quoi dans la vraie vie, alors?
Il est comptable.
Il est comptable, d'accord. Donc un truc assez classique.
Ouais,
Et
dans un bureau.
par exemple, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une vie de dictateur, une vie
Eh
de
bien.
macro.
Il va voir en fait ce que sa vie aurait pu donner. Par exemple, là, on le voit aller voir. Il avait un projet à la fac avec d'autres potes. C'était quitter le collège et ouvrir un surf shop à Hawaï.
Ah oui, mais alors attends, est-ce que tu peux vraiment complètement bouleverser les choses, c'est-à-dire est-ce que je peux prendre une vie de macro ou une vie
Ah
de
ben,
dictateur?
oui, si un de tes toits alternatifs a choisi ce passe cette vie-là.
Ah d'accord, oui, d'accord, oui. Oui, il faut que ça dépende quand même.
Mais
Enfin.
il y a des milliers et des milliers, enfin c'est même des millions de réalités alternatives. Donc
Ouais, mais
de
il faut
toute
que ça reste
façon,
dans la mesure du possible, quand même. C'est-à-dire que.
ouais, mais tout est possible. La moindre petit
Bah,
changement,
est-ce que tu peux
enfin
être super-héros? Non.
ah non non, ça reste quand même réaliste malgré tout,
Oui.
malgré tout
Donc
ça
c'est pour
reste
ça, quand
réaliste
je te
mais.
dis dictateur, il faut quand même que ta vie prenne un cours suffisant pour que tu arrives à ce
Oui,
niveau-là,
mais
quoi.
enfin, il arrive à se voir président de la République, enfin président des États-Unis, pardon.
Ah quand
Donc
même, oui.
voilà, enfin je veux dire, tout est forcément possible. Le simple fait de choisir d'aller en fac de droit ou d'aller en fac de psycho, si par exemple tu hésites au moment où tu rentres en fac, eh ben ça crée une réalité alternative. Une réalité dans laquelle tu vas avoir tes examens ou non, une réalité. Enfin voilà, le simple fait de prendre un virage à droite, ou de prendre telle place de parking plutôt qu'une autre, va changer le cours de ta vie, va créer une réalité alternative. Donc par là, enfin, il y a des milliards et des
Le
milliards
fameux
de...
effet papillon dont on parle beaucoup cette fois-ci, finalement.
Voilà, ouais. Mais alors, ça pourrait s'arrêter là, être déjà super intéressant, mais ça va beaucoup plus loin.
Évidemment.
C'est-à-dire que, en fait, il fait partie des clients, il fait partie des 20% de paires de clients qui l'utilisent vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a
Et qui
20% de personnes sur Terre, et tout le monde, ou presque, utilise ce système de
les
vacances.
clients premium, quoi, il fait partie des clients
Voilà.
premium.
Mais il y a vraiment des idées gigantesques. Alors, je vais pas toutes vous les révéler, c'est vraiment à découvrir. Mais par exemple, à un moment, il va voir le service client de cette application parce qu'il a remarqué un défaut. Pas
Mais
mal de ses
ça a l'air
bugs
très
ont
long comme
l'air.
ça, au fait, c'est
Non, du tout.
24, 24
Oui,
pages.
24 pages, oui. Mais c'est
D'accord.
vraiment très bien écrit. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent et c'est vraiment super intéressant. Il se rend compte en fait, alors c'est là qu'il y a des idées géniales. Il y a une petite application, enfin un RSS de Google qui est en plus nommé, hein, donc il y a un petit placement de produit, je sais pas. Il y a un RSS de Google qui permet de suivre ce qui arrive dans tes vies parallèles.
Ah oui, d'accord, oui. Oui, un petit peu comme, comme si tu étais sur WoW, mais... Tu vois là, tu peux suivre l'évolution de tes personnages, quoi, entre guillemets.
Ouais, enfin, de tes toi-même. Et il se rend compte, en fait, que pas mal de...
Non, mais oh, toi-même, Steve.
Pas mal de ces doubles meurent de façon violente, à un rythme quand même assez soutenu. Beaucoup plus que d'habitude. Donc il décide d'aller voir son service client.
Pour se plaindre.
De cette application, non, mais pour essayer d'avoir des infos, voir savoir si c'était normal, etc. Et donc là, il va d'abord voir son psy. Et son psy, bah, c'est lui. Parce que quel est le meilleur psy que toi-même? Donc du coup, c'est un de ses doubles qui est psy, qu'il va voir.
Ouais.
Ensuite, quand il va voir son service client, pour aller plus vite dans la queue, il cherche justement un de ses doubles qui vend sa vie. Et donc, il prend, enfin, il achète sa vie pour passer plus vite dans la queue. Je sais pas si tu vois ce que je...
Oui,
si
mais par je contre, à demander conseil à quelqu'un qui est soi-même, c'est un peu bizarre, parce que finalement, il aura pas forcément... Mais... Il sera pas plus avancé, quoi.
Non, mais personne ne se connaît mieux que soi-même. Donc c'est
l'intérêt. Oui, justement, mais là, il a besoin d'un avis extérieur pour savoir pourquoi il meurt si souvent.
Pas forcément, il veut savoir ça au début, si ça vient de lui ou pas. Et justement, le psy lui conseille d'aller voir le service client. Mmh. Et le service client, la personne qui te répond au service client, bah, c'est toi-même. Puisque tu n'oseras pas forcément te gueuler sur toi-même. Tu seras plus relax, plus calme, plus détendu. Mmh. Voilà, c'est des petites idées, mais franchement géniales, quoi. Et donc il y a tout ça qui se passe, donc cette histoire de meurtre, de ces différentes versions de lui-même. Et puis il commence à rencontrer, il rencontre une femme dans un café.
Ouais.
Et là, il essaye de, enfin, il se rend compte que cette fille le fixe, donc il veut l'accoster puisque bah elle est plutôt mignonne. Et bon, à partir de là, ça dérape un peu puisqu'il se sert de ça. Et Nick Spencer en profite pour nous montrer qu'il y a 3% de cette population. Qui n'utilise pas et qui refuse complètement cette idée de voyager dans d'autres vies à soi.
Ah, un petit peu comme ceux qui vont pas sur Facebook.
Voilà, un peu, en quelque sorte.
Mm-hmm. Donc je serai dans les 3%, en fait.
Et on arrive sur un cliffhanger que je ne vais pas révéler, mais ça chauffe. Et c'est franchement super bien, c'est bourré d'inventivité. C'est les dessins sont plutôt sympas, il y a des très jolis effets. Non, franchement, c'est un méga bail.
Ça fait quand même penser au pitch, alors vraiment, bon, de loin, ça, il y a un petit côté peut-être Matrix là-dedans, mais ça fait penser aussi à un pitch. J'avais vu une bande-annonce d'un film comme ça, où des gens menaient une autre vie sur Internet, au fait, dans un truc virtuel, mais en même temps, ouais, ça peut
ça donner... Ça ressemble aussi un petit peu à Clone, par exemple.
Ouais, non, mais ça peut donner...
Ah, de Surrogates.
En tout cas, ça pourrait donner un pitch intéressant pour peut-être même un jour une adaptation... ciné, quoi.
Bah, il y avait eu The Surrogates avec Bruce Willis, enfin la version film, c'était un clone. Ouais. Enfin voilà, enfin là c'est vraiment, j'en ai parlé qu'un petit peu. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dedans, enfin beaucoup d'autres. Il y a d'autres choses. Il y a vraiment une ambiance particulière. En tout cas, Nick Spencer prouve qu'il est un très bon scénariste, avec des très très bonnes idées, des idées assez étranges, très intéressantes. On va voir ce que ça va donner. C'est qu'un premier numéro, c'est sûr.
C'est comme les Thunder Agents, hein, quand même. C'est vraiment des personnages torturés et étranges, quoi. C'est ça qui fait le charme de ce scénariste.
Pour moi, Nick Spencer, s'il continue sur cette voie-là, d'ici une dizaine d'années, aura l'aura d'un Warren Ellis ou d'un Grant Morrison. De quelqu'un qui est capable de faire des choses très particulières.
Oh oui, bah d'un Warren Ellis et d'un Grant Morrison, c'est tout à fait possible, bien sûr.
Je pense que s'il continue sur cette voie-là, c'est un futur de ce type-là. Donc bah, c'est tout ce que je souhaite, parce que pour le moment, Morning Glory, Infinite Vacation, j'ai pas lu Thunder Agents, donc j'en parlerai pas, mais c'est du très très bon.
Mmh. Oui, bah Thunder Agents, c'est pour le découvrir un petit peu sur les super-héros, quoi, on va dire.
Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, courez l'acheter, parce que c'est très très bon, et surtout courez l'acheter avant qu'il n'y en ait plus, parce que ça, à mon avis, vu la renommée du personnage maintenant, ça va partir très très vite. Morning Glory avait été très vite épuisé. Ça risque de faire la même chose avec Infinite Vacation. Et ce serait amplement mérité.
Si Steve vous dit ça, vous feriez mieux de vous dépêcher, les gens.
Donc demain,
vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est le week-end. Enfin, c'est à l'heure où on enregistre. Ah, on va y arriver aussi. À l'heure où on enregistre vendredi soir. Voilà. Ouais.
D'où le fait que tu aies été un peu plus pressé pour tes lectures, ce qu'on enregistre plutôt que d'habitude.
Oui.
Je sais même pas quand il sortira. Peut-être dimanche, peut-être lundi, je ne sais pas trop encore. Mais enfin bon, quand vous entendrez ça, courez acheter Infinite Vacation si ce n'est pas déjà fait.
Exactement.
Et... Ou achetez-en deux. Oui. Supportez cette série, achetez-en deux, trois, douze.
Et aussi ce dont on a parlé, puisque tout était bon finalement cette semaine.
Ouais, tout était bon. Bah, Birds of Prey un petit peu moins parce qu'il faut avoir suivi, mais donc si on n'a pas suivi, on oublie. Mais à part ça, non, c'est du bon, quoi, encore une fois. Une bonne, très bonne semaine.
Ouais.
C'est tout.
Oui, il reste plus qu'à conclure.
Vous connaissez le principe, hein, les commentaires, les mails, le répondeur, je répète pas, tout est sur l'article. On perd pas trop de temps parce qu'on est déjà très 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 à la bourre. Et le mot de la fin de Benny, comme d'habitude.
Oui, alors le mot de la fin, toi tu vas savoir encore une fois, on reste un petit peu dans le même registre que ces dernières semaines, je vais simplement te dire, Aboudoufliche, Aboudouflash. Qu'est-ce que c'est que cette formule magique?
Oh non, tu n'as pas été de ressortir ça,
Ah
pitié.
bah si, mais si, on l'a jamais fait encore dans les wikis.
Oh là là, le déterreur.
Oui, le déterreur, dans déterreur d'ailleurs, il y a terreur. Voilà, je vous laisse sur cette pensée.
C'est vite, c'est
C'est totalement
drôle.
miteux. Et je pense que je pourrais encore en trouver beaucoup d'autres. Mais, enfin, de choses comme ça, comme Aboudoufliche, Aboudouflash. Je vous laisse réfléchir, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et puis laissez-nous nos petites réponses dans les commentaires.
Oui, comme d'habitude.
Je pense que ça s'adresse
Bravo à
plutôt aux
ceux
gens de
qui
notre
ont.
génération.
Oui. Bravo à ceux qui avaient trouvé d'ailleurs les précédents. Et Steve, peut-être rappeler Facebook, Twitter.
Ben voilà, tu viens de le faire.
Voilà.
Comicity sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas sur Facebook, des petites vidéos supplémentaires que vous ne trouverez pas sur le site. Inside LCF.
Ouais, voilà, c'est ça. Des petites
Entre
vignettes
autres.
assez drôles, hein, généralement, et surtout de toutes les
Pourquoi
parts.
généralement? Pourquoi généralement?
Ah
Parce
bah
que des
parce
fois, ce
y
n'est
en a
pas
des
drôle.
dramatiques, il y a celle où tu meurs quasiment en plein SF.
Ah bon?
Non, bah oui, non, tu le sais pas encore. C'est Attends, je plaisante.
Oui, ça aurait été possible, hein.
Oui. Non, c'est plutôt moi en plus d'ailleurs qui était HS par moment. Mais toujours est-il que
Veux-tu qu'on parle de
oui.
dimanche matin?
Ne pas rater aussi les interviews et Sad Riddick qui vient d'être posté aussi.
Oui, la deuxième vidéo vient d'être mise en ligne, la deuxième partie au moment où nous enregistrons, il y a quelques heures qu'elle vient d'être mise.
Oui, très
Et
intéressant, très
voilà.
très intéressante.
Très flippant, mais très intéressant.
Oui. Donc en deux parties. Voilà, allez, et puis il y en aura d'autres à venir encore.
Ouais, il y en a encore d'autres à venir. Allez, on se quitte, on a largement débordé sur le temps qui nous était imparti. Enfin, c'est fictif, hein, c'est moi qui choisis, mais voilà, par rapport à d'habitude, c'est plus. Ça ne veut rien dire. Je suis fatigué. Et on se dit à la semaine prochaine.
Allez, ciao à tous. Bonne semaine.
Salut!